Vous savez, il y a deux façons de voir ce qui se passe ce matin. Alors, ceux qui sont présents sont les fidèles. Ou l'enlèvement a eu lieu, puis nous autres, on est encore là. Ah, c'était pas si pire quand même venir, hein?
C'est de sortir, là, de pelleter, avec de la neige, les vents.
Les bourrasques, hein, ça amène trois fois plus de neige dans ton entrée et tout ça. Là, fait que, mais c'est bien, on est là. Alors, content de ne pas avoir quand même fermé. Hein, c'est toujours des fois la question. On a déjà fait une fois en janvier, à cause que là, il y avait du verglas, puis ça semblait être plus dangereux, ainsi de suite. Puis là, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas venir, qui avaient des responsabilités. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas cancellé, puis je pense qu'on a pris la bonne décision. D'accord? Excellent. Et là, on est dans l'Évangile de Jean. Alors, si vous voulez, allez dans Jean chapitre 7. Puis là, vous voyez le titre du message ce matin. Besoin d'un bon lifting et d'une nouvelle perspective. Alors, Jean 7, 1 à 36... va nous aider, puis ça continue dans la suite de Jean 7. Mais c'est le titre qui m'est venu pour cette section dans l'Évangile de Jean. Vous savez, on a regardé à travers l'Évangile de Jean, chapitre 5, chapitre 6, l'aspect de l'importance du contexte pour justement comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, Jean 7 est un peu comme une portion de l'Évangile de Jean, c'est-à-dire à partir du chapitre 5, aller jusque là où on est en train d'entamer aujourd'hui le chapitre 7. Ça fait partie un peu de ce qu'on peut appeler la montée de l'opposition face à Jésus, face à son ministère, face à son enseignement, face à ses prétentions prétentieuses selon les Juifs. Concernant son identité messianique et son origine divine. Et là, comme si vous vous en rappelez, mais Jean 5 a commencé avec un miracle qui s'est passé à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. Et puis là, ça s'est fait le jour du sabbat. Et là, ça a suscité toute une controverse. Les leaders religieux, eux, ont accroché sur le fait que c'était le jour du sabbat. Et là, Jésus a profité de l'occasion, puis il en a mis un peu plus pour justement alimenter la controverse. Et là, il leur a dit pourquoi il avait fait ça le jour du sabbat. Vous vous en rappelez pourquoi il a fait ça le jour du sabbat? Et là, il a fait une déclaration qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui pouvait faire, à moins d'avoir le fondement des prétentions que Jésus a prétendu être. Parce que c'est assez particulier, là. Rappelez-vous ce qu'il a dit? Pourquoi qu'il avait fait ça le jour du sabbat? Il n'a pas dit à ce moment-là qu'il était le maître du sabbat. Ce n'est pas cette occasion-là qu'il a dit ça. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Il l'a dit dans une autre occasion. Mais cette fois-ci, il a dit quelque chose d'encore plus... en tout cas, ça va dans le même sens, mais encore plus clair dans un sens que même de dire qu'il était le maître du sabbat. Parce que de dire qu'il était le maître du sabbat, c'est prétentieux, là. Qui est le maître du sabbat? C'est Dieu. Alors là, c'est comme « wow, 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 wow ». Mais là, il dit encore quelque chose d'encore plus choquant que ça. Vous en rappelez-vous? Pardon? Alors, il dit « mon père, lui, il travaille le jour du sabbat ». Ben, il dit « moi aussi, je travaille ». Quoi? Comprenez-vous l'implication de ça? Alors, Jésus est en train vraiment de révéler son identité. Et là, il dit, moi et le Père, dans le fond, on est un. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Hein? Mais là, voyons donc. Comment est-ce possible? Il y a juste une seule réponse à ça. C'est qu'il est Dieu. Et ils l'ont compris, les Juifs. Ils ont compris que Jésus prétendait là, être égal à son Père. Donc, il était Dieu. Et ça, pour eux, c'était un blasphème. C'est impossible. C'est inimaginable. Alors là, ça a amené de la controverse. Là, Jésus quitte. Et là, je vais vous mettre, en passant, j'ai une petite carte géographique que je vous avais montrée. Marche-tu? Voilà. Alors, Jésus a fait son miracle. ici dans la région de Jérusalem, la piscine de Bethesda, et là, ils décident de monter et ils s'en vont en Galilée. Et là, qu'est-ce qui se passe en Galilée? Bien là, il fait le miracle de la multiplication des pains. Et là encore là, lors de cette multiplication des pains-là, Jésus va faire ce miracle-là. Ensuite, il va faire le miracle de marcher sur les eaux. Et là, il s'en va dans la région de Capernaum. Et là, il y a toute une foule qui le suit. Et là, il enseigne comme de quoi qu'il est le pain de vie. Et que pour avoir la vie éternelle, il faut manger sa chair et boire son sang. Et là encore là, là c'est comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Puis là, au lieu d'agrandir sa popularité, là on voit que toute une gang de personnes décide de le laisser de côté puis dire là tu vas trop loin, les paroles que tu dis sont trop dures. Puis là ce qu'il est en train de dire dans Jean 6, et là il y avait un, dans un sens un verset clé ou une pensée vraiment importante dans Jean 6, où là Jésus a dit en fin de compte, pourquoi ces gens-là l'ont quitté? C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il a dit, mais c'est parce qu'ils ont trouvé qu'il allait trop loin. C'était choquant de dire ce qu'il disait. Et là, ils ont dit, là, on n'est plus capable d'adhérer à ton enseignement. Et c'est pour ça que pour Jean, qui écrit son évangile, il veut essayer de démontrer qu'est-ce qui s'est passé quand il dit dans Jean 1 que la parole qui était Dieu, qui s'est faite chair, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et là, maintenant, Jean explique pourquoi qu'ils ne l'ont pas reçue. Et dans Jean 6, il dit, les gens disent, tu vas trop loin. C'est impossible de croire en ce que tu viens de dire là. C'est impossible pour nous d'adhérer à ça. Et là, on revient de bord. Et là, la grande majorité l'ont quitté. Puis là, on voit qu'il y a différentes sortes de disciples. On avait regardé ça ensemble. Et là, qu'il y en avait 11 sur les 12 disciples qui étaient vraiment lui, qui eux, et là, c'est Jean fait ressortir une vérité très importante. Et là, c'est Jésus qui le montre en disant, si vous êtes encore là, vous les 11, c'est pas parce que vous m'avez choisi. C'est parce que je vous ai choisi. Et si vous croyez en moi, vous les 11, c'est pas parce que vous avez eu l'initiative. C'est pas parce que vous êtes plus spirituel, c'est pas parce que vous êtes plus avancé, c'est pas parce que vous avez une vie morale meilleure que les autres, comme s'il s'agissait de ce que nous on fait pour s'approcher de Dieu, pour que là on adhère à Dieu. Non, Jésus dit une vérité très importante. Si vous êtes là, vous là, les 11, et qui est parmi les 12, il y en a un qui va justement devenir un diable, et là, c'est pas mentionné c'est qui, pas entre eux, là, Jésus savait c'est qui, et Jean nous le dit parce qu'il sait c'est qui. Mais il dit, la raison pour laquelle vous êtes encore là, c'est pas parce que vous m'avez choisi, c'est parce que moi je vous ai choisi. Puis la raison pour laquelle je vous ai choisi, c'est parce que le Père s'est révélé à vous. Et là, c'est comme une vérité qui est profonde. Ceux qui croient en Jésus, là, c'est parce qu'ils ont entendu la voix du Père résonner dans leur âme, dans leur esprit, dans leur cœur. Et là, ils ont reçu favorablement ce que le Père leur a communiqué sur Jésus. Et ça, c'est un miracle. Puis on comprend. Je l'avais expliqué. Si on est mort, un mort, hein, ça le dit, il est mort. Donc, il faut que quelqu'un vienne insuffler la vie en nous pour qu'on puisse, et c'est ça que Jésus est en train de dire, et un jour il l'a dit aussi à Pierre en disant, Pierre, t'es heureux, tu dis je suis le Christ, le Fils de Dieu, mais ça vient pas de toi ça mon Pierre, c'est mon Père qui te l'a révélé. Maintenant ici dans Jean 7, il y a une autre vérité très importante que Jean, l'auteur, veut faire ressortir. Comment on peut arriver justement à croire en Jésus? Qu'est-ce que ça prend? Quelle disposition de cœur est-ce que ça prend? Pourquoi certains croient en Jésus et d'autres ne croient pas? Bon, on sait dans Jean 6, Jésus dit, ça prend d'abord une œuvre de mon Père. S'il n'y a pas une œuvre de mon Père qui est faite dans le cœur, il n'y a pas personne, parce qu'on est tous voués à être séparés de Dieu. Et là, ça prend absolument une intervention de Dieu. Mais là, maintenant, Jésus semble dire, ah, mais il y a une autre facette à ça aussi. Il y a non seulement mon Père qui doit faire une intervention, mais il y a une disposition de cœur qui doit exister. Et c'est ça que Jean veut faire ressortir au chapitre 7. Et c'est pour ça que j'ai donné comme titre, on a besoin d'un lifting, un lifting intérieur. On a besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de notre perspective. Et pour que ça puisse arriver, il y a une disposition de cœur qui est absolument importante. En fait, ce que je trouve ça vraiment intéressant avec Jean, parce que un des éléments que j'ai voulu faire ressortir en disant, voyez, le contexte, c'est vraiment important. Je vais donner des exemples pour essayer de comprendre que si on n'a pas le contexte, on peut arriver à des mauvaises conclusions. On va arriver à des faussetés. On va arriver à prendre des décisions qui ne sont pas éclairées et on va se tromper. Donc, l'importance du contexte. Maintenant, Jean, ici, dans le chapitre 7, ce qu'il va faire ressortir, puis c'est vraiment intéressant, c'est qu'il dit, en fait, là, quand on regarde la vie, quand tu regardes les choses, quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, quand tu regardes, par exemple, ce qui se passait là, à Jérusalem avec Jésus et différentes choses qui étaient en train d'arriver, qui étaient comme hors de l'ordinaire, bien, il y a trois façons de voir. On appelle ça une perspective. Il y a trois sortes de perspectives. Et vous savez, on est tous dans ce même monde-là. On peut fonctionner sur la base de trois différentes perspectives. Puis Jean dit, il y en a juste une qui fonctionne. Les deux autres, là, elles vont toujours nous éloigner de Dieu. Elles vont toujours nous emmener dans l'erreur. Elles vont nous emmener dans le champ. Et là, c'est ça que Jean va expliquer dans cet évangile-là, et j'aimerais ça vous la faire ressortir, ces trois perspectives-là, parce qu'elles sont très pratiques. Et si on s'arrêterait nous-mêmes, à un certain moment donné, où on vit des situations difficiles, des circonstances, peu importe, puis là, on est tous en questionnement, et si on s'arrêtait là, puis on disait, OK, sur quelle perspective je suis en train de fonctionner présentement? C'est quoi que mes pensées sont par rapport à ces circonstances-là que je suis en train de vivre? Alors, c'est soit ma perspective, elle peut être celle qui est terrestre, elle peut être céleste, ou elle peut être, c'est quoi la troisième, vous pensez? Diablesse. Ça fait des S, hein? Terrestre, céleste, diablesse. Il y en a juste trois. Il n'y en a pas plus que trois. Et on peut tout le temps catégoriser les choses en fonction, ah, ça c'est terrestre. Ça c'est la perspective terrestre. Ah, non, ça, celle-là, c'est la perspective céleste. Ah, celle-là, c'est la perspective diablesse. Et je vais essayer de vous faire montrer ça justement dans Jean 7. Et là, on va lire Jean 7, 1 à 36. Et juste avant de lire Jean 7 à 36, je vais vous inviter à venir avec moi dans la prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. On veut te remercier parce que ta parole, elle est vivante puis elle est pratique. Et elle veut nous instruire. Elle veut nous aider justement à nous orienter pour que face à cette orientation-là, bien, tout le reste de notre vie en découle. Alors Seigneur, ce matin, aide-nous à comprendre à ces trois perspectives. Et surtout, celle qui est céleste, de manière à ce que nos décisions, nos pensées et tout ce qui nous concerne puissent être influencés principalement, et, oh Seigneur, ça serait merveilleux, on pourrait dire uniquement par cette perspective céleste. Toi, Jésus, c'était la seule perspective qui alimentait ton cœur et ta vie. Toute ta vie, tu as vécu selon cette perspective de ton Père, cette perspective d'en haut, cette perspective qui nous reflète une façon totalement différente de voir les choses, de voir la vie, de voir les circonstances dans lesquelles on est. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux ce matin. Permets à nos cœurs de recevoir encore plus de ta perspective, de qui tu es toi, de ce que ta parole nous montre sur ton identité et tes origines divines, de manière à ce que, Seigneur, on soit influencé par ces vérités qui sont là dans ta parole et qui sont tellement importantes, qui font tellement une différence dans notre vie quotidienne. Alors que ton esprit nous aille, nous accompagne. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on te prie. Amen. Pendant que je vais lire Jean 7, 1 à 36, essayez de voir, puis là, je vais vous les montrer après, là, les versets où on voit chacune de ces trois perspectives-là. Mais essayez de, mentalement, pendant que je lis, de dire, ah, ouais, ça ressemble plus à la perspective terrestre. Ah, celle-là, c'est plus, ça serait probablement céleste. Ou celle-là, ah, ça, c'est diablesse. Le diable, autrement dit, est derrière ça. Alors, je vais lire, puis essayez de faire ça mentalement, puis après ça, on va les regarder ensemble. Après cela, donc, chapitre 7, verset 1. Après cela, donc ça veut dire à peu près 6 mois plus tard, parce que le chapitre 6 finit avec l'enseignement que Jésus a fait sur le pain de vie. Et là, on sait que Jésus était allé dans la région de Jérusalem à Pâques. Alors ça, c'est mentionné au chapitre 6, verset 4. Puis ici, dans le chapitre 7, au verset 2, il dit que c'est la fête des cabanes qui est là. Donc, on sait qu'il y a un 6 mois là, d'intervalle. Donc, après cela, après les 6 mois que se sont écoulés entre la Pâque et là la fête des cabanes qui est là, Jésus parcourait la Galilée, alors comme vous avez vu tantôt, là, qui est en haut de la Palestine. Alors, il parcourait la Galilée car il ne voulait point parcourir la Judée, qui est en bas au sud, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, il y avait tellement de controverses à cause de ce que Jésus avait fait comme miracle, de son ministère qui allait de plus en plus en popularité, qu'il a préféré demeurer plus longtemps en Galilée, parce que là, il voulait pas aller et là, se montrer à Jérusalem, tenant compte que les chefs religieux voulaient le faire mourir. Vous allez voir, il y a une importance ici dans ce 6 mois d'attente. Pourquoi est-ce qu'il y a une attente comme ça? Or, la fête des Juifs, celle des cabanes, qui est celle des huttes ou celle des tabernacles, c'est toute la même appellation, là, était proche. Et encore aujourd'hui, ils fêtent cette fête-là. Et comme dans la région de Montréal, à un moment donné, il y avait eu un reportage là-dessus où ils se font des petites cabanes à l'extérieur, là, qui ressemblent à des petites des cabanons de fortune, là. Et puis pour eux, là, ça symbolise ce temps où ils ont été dans le désert. Alors, ils fêtent encore cette fête-là aujourd'hui, comme ils la fêtaient aussi au temps de Jésus. Ses frères lui dirent, donc ça c'est ses frères de sang, dirent à Jésus, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Et là, il rajoute, personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Voyez-vous, donc, si toi, Jésus, tu veux vraiment que ta popularité continue à augmenter, puis là, il ne faut pas oublier qu'au chapitre 6, il a semblé perdre beaucoup de points. Il y a beaucoup de monde qui l'ont délaissé à cause que ses paroles étaient trop dures. Donc, vas-y maintenant. Va à Jérusalem. Pourquoi? Parce que là, c'est la fête des cabanes. Et la fête des cabanes, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde qui vient de partout, des Juifs qui viennent de partout, des Juifs de la diaspora qui sont répartis un peu partout, des Juifs de la région, de la Galilée, tout ça. Ils s'en vont tous là. Là, ça va être plein à craquer. C'est une des fêtes. En fait, ils disent que c'est la fête la plus populaire qui attire le plus de monde à Jérusalem à cause que c'est justement cette fête-là et que les gens aiment fêter cette fête-là. Donc, il y avait beaucoup de monde qui était anticipé à être présent. Alors, il dit, vas-y, puis monte-moi devant tout le monde. Et puis là, au verset 5, « En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jésus leur dit, regardez bien là, le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Intéressant. Alors, Jésus, il ne marche pas sur le même calendrier. Voyez-vous deux perspectives ici? Hein? Une qui est humaine, celle des frères de Jésus, et une qui est céleste, qui est celle du Père de Jésus. Et là, Jésus, lui, veut s'aligner avec quel calendrier? Avec celui de son Père. Non pas avec celui de ses frères. Et là, Jésus rajoute, le monde, en parlant des gens, ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi. Pourquoi? Jésus, c'est un bon gars. Hein? Il fait du bien tout le temps. Il aime tout le monde. Pourquoi les gens l'haïssent? Mais non, fait pas de bon sens. Il fait du bien, nourrit les foules, guérit les malades. Il dit juste la vérité. Il fait toujours la volonté de son Père. Il n'a jamais fait un péché. Pourtant, Jésus dit à ses frères, ils ont de la haine pour moi. Pourquoi? Parce que je rends de lui, en parlant du monde, des gens, le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alors, vous voulez vous faire haïr? Voici la recette parfaite. Dites aux gens ce qu'ils veulent entendre. Confirmez leur façon de penser, même si c'est des pensées humaines, terrestres. Puis Jésus dit, ils vont vous aimer. Venez maintenant avec la perspective de Dieu, contrariez-les un petit peu, mettez en question leur plan, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vous haïr. Ça, c'est seulement si ils ne veulent pas entendre la perspective de Dieu. C'est ça qui est impliqué ici. Parce que dans les Proverbes, par exemple, ça dit « reprends un juste » en disant « quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, reprends-le, puis il va t'aimer. » Reprends un insensé, quelqu'un qui ne veut pas Dieu dans sa vie, qui ne veut pas la perspective de Dieu dans sa vie, qui ne veut pas être contrarié dans ses projets, dans ses plans, dans sa façon de penser, dans ses désirs, dans ses besoins, dans tout ce qu'il pense qui est mieux pour lui, mais qui est basé sur sa façon de penser ou la pensée humaine, la perspective terrestre, puis il va te haïr. C'est en plein ce que Jésus est en train de dire ici. Moi, Jésus, je fais la volonté de mon Père. Et là, quand je rencontre les hommes et que je vois que la façon qu'ils vivent, et ici, c'est fort probablement aussi les chefs religieux qui le haïssaient particulièrement, ou même cette foule qui là, avait délaissé Jésus parce que là, il allait trop loin, puis ça ne faisait pas leur affaire. Alors, parce qu'eux ne pouvaient pas recevoir les paroles de Jésus qui étaient celles de son Père, bien, ils haïssaient Jésus. Alors là, Jésus dit au verset 8, « Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. » Alors encore là, ici, Jésus renforce la même idée que tantôt. « Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. » Donc, il restait encore un peu de temps. « Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même. » Ici, ça semble être comme une contradiction, hein? Êtes-vous d'accord? Allez-y, vous autres, moi, j'y vais pas parce que vous autres, votre temps, c'est n'importe quand. Moi, mon temps, il n'est pas n'importe quand. Mon temps, il va avec le temps de Dieu. Et puis là, ici, ça dit qu'aussitôt que les autres sont montés, il est monté lui aussi. Non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Voyez-vous ici une petite distinction? Les frères de Jésus voulaient qu'il aille d'une façon flamboyante, avec tambour et trompette et tout ça, pour que le plus de monde possible le voie et croit en lui, tandis que Jésus, lui, est allé un peu plus tard, mais au moment où Dieu voulait, dans le fond, qu'il aille. Et c'est ça qui est implicite ici. Autrement dit, même si Jésus, ça a pris un petit peu plus de temps pour qu'il monte, pas tellement de temps non plus, un petit peu plus, mais il n'est pas allé autant que ses frères voulaient qu'il aille, puis il n'est pas allé pour les raisons que ses frères voulaient qu'il aille. Il est allé un peu plus tard, mais c'était autant que son père voulait. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est qu'aussitôt que ses frères étaient partis, lui, il a eu le hoquet de son père, il est allé, puis il est allé pour des raisons différentes que ses frères voulaient qu'il aille. Alors, les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il, celui-là? Il est où? » Alors, il y a une certaine frustration ici, une certaine détermination aussi qui est là. Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet, au sujet de Jésus. Les uns disaient, c'est un homme de bien, mais d'autres disaient, non, au contraire, il égare la foule. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, qui veut dire son Père. Si quelqu'un veut faire sa volonté, en parlant de la volonté de son Père, il reconnaîtra si cet enseignement que je donne vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. » Et ici, c'est le verset clé. Ça, c'est la vérité que Jean veut faire ressortir à ce point-ci. La disposition de cœur d'une personne va faire la différence pour reconnaître si l'enseignement de Jésus est de lui-même ou s'il vient de Dieu. Et verset 18, « Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu es un démon. Qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés, choqués. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse, car elle vient en fait des patriarches. Elle existait du temps des patriarches. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai rendu à la santé un homme tout entier pendant le sabbat? » Là, Jésus fait ressortir une certaine contradiction qu'ils ont dans leur façon de raisonner. Et là, il dit au verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir? Le voici qui parle ouvertement et on ne lui dit rien. » En parlant ici, encore là, des leaders religieux qui faisaient rien, qui le laissaient parler ouvertement. « Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ? » Donc là, il commence à avoir un soupçon que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, puis là, ils sont pas au courant, puis là, ils ont peut-être changé d'opinion par rapport à Jésus. Cependant, là, au verset 27, « Celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne sait d'où il est. » Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. » Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je suis là de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter, et personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent et disaient, le Christ, plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Et la réponse, naturellement, pour eux, c'était non. Il en a fait suffisamment, et donc ces gens-là croyaient en Jésus. Alors, verset 32, « Les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. » Trop, c'est trop. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? » Et là, commencer à enseigner les Grecs. Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. » Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Alors ici, on voit très clairement, en tout cas, je vais vous les montrer les versets, et si vous ne les avez pas vus toutes, vous allez sûrement en voir d'autres. Mais la première chose que j'aimerais regarder avec vous, c'est ces trois perspectives-là. Donc, la perspective d'en bas, celle qui est terrestre, c'est la manière humaine, naturelle, sensorielle, c'est-à-dire avec nos sens, là, et limitée de voir les choses telles que Dieu, la vie, les circonstances et l'événement. Ça, c'est notre façon limité. Et tout le monde, on a cette perspective humaine. On est capable de comprendre des choses, on est capable de voir des choses, et on a de l'information, une certaine information, et avec cette information-là, on arrive à des conclusions. La deuxième, c'est celle d'en haut, et là, c'est la manière divine, surnaturelle. Donc, ça veut dire que si c'est surnaturel, pour que je puisse avoir cette perspective-là, il faut qu'il se passe de quoi? Parce que naturellement, je ne l'aurais pas. Donc, si elle est surnaturelle, elle est spirituelle et elle est éclairée. C'est-à-dire, il y a une illumination puis il y a une véracité dans cette perspective-là que juste ma perspective humaine, je ne pourrais jamais avoir. Et elle est plus complète et elle est véridique. Alors, de voir les choses telles que Dieu, la vie, les circonstances et les événements. Puis celle qui est diablesse, alors, celle qui est d'en dessous, alors on a celle d'en bas, celle d'en haut et celle d'en dessous, celle qui est diablesse. Alors, ça, c'est la manière maléfique, mensongère, infecte et pernicieuse de voir les choses telles que Dieu, la vie, les circonstances et les événements. Et si je reviens dans le récit biblique, par exemple, la manière humaine, naturelle, sensorielle, limitée, on les voit dans le chapitre 7, versets 2 à 5, au verset 6, deuxième partie, B, 7A, 12 à 13, 15, 20 et 24, 47. Je vais vous donner un aperçu de cela. Comme par exemple, au verset 2 du chapitre 7, ça dit que la fête des cabanes est proche, alors qu'il était une fête très populaire qui attirait beaucoup de pèlerins à Jérusalem. Ça, c'est une perspective tout à fait terrestre. C'est un événement qui arrivait, donc c'était, ça faisait partie du calendrier et c'était comme ça. Alors, il n'y a pas plus que ça par rapport à ça. Ensuite, au verset 3 et 4, on voit que ses frères biologiques, ça c'est Jacques, Joseph, Simon et Jude, on voit, ils sont nommés dans Matthieu 13, 55. Eux autres, ils mettent de la pression sur Jésus pour qu'il prouve, c'est-à-dire qu'il démontre par des miracles et hors de tout doute, autant à eux qu'aux autres, qu'il est bel et bien le Messie. Oui, alors ça, c'est leur perspective à eux qui est tout à fait humaine. Ensuite, au verset 5, 6b et 7a, ça dit aussi que ses frères ne croyaient pas en lui et ils ne connaissaient rien du plan, c'est-à-dire du timing, du moment, de l'échéance, du calendrier de Dieu. Ils n'en avaient aucune idée. Ils refusaient d'écouter la parole de Dieu et de reconnaître en Jésus le Messie promis parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et là, Jésus explique qu'eux, ils font partie du monde et donc ils se comportent comme les gens du monde. Ils raisonnent comme le monde. Et c'est pour ça qu'ils ne croyaient pas en lui. Dans les versets 12 à 13, c'est mentionné là que la foule, qui était des Juifs qui étaient venus de la Judée, de la Galilée, de la diaspora, comme j'ai mentionné, eux autres, ils murmuraient, c'est-à-dire ils faisaient circuler à Jérusalem une grande rumeur où là, il y avait différentes opinions au sujet de Jésus. Certains disaient que c'était un homme de bien, tandis que d'autres disaient qu'il était un charlatan, car il égarait la foule, il égarait la multitude. Puis, en même temps, on voit que les gens n'osaient pas parler ouvertement de Jésus, car ils craignaient les représailles de la part des leaders religieux. Ça, c'est vraiment la perspective tout à fait terre-à-terre et humaine de ce qui est en train de se passer. Au verset 14, les gens du peuple étaient étonnés par la façon unique que Jésus avait d'enseigner et par sa grande connaissance des Écritures de l'Ancien Testament, malgré le fait qu'ils n'avaient pas reçu de formation théologique officielle. Et là, on voit que Jésus était l'enseignant par excellence, autant d'un point de vue exégétique, c'est-à-dire d'être véridique par rapport au sens exact de l'Ancien Testament, qu'apologétique pour expliquer Dieu et démontrer comment Dieu est la vérité, qu'homélitique dans sa façon de communiquer aux gens, il était d'une manière excellente, et aussi dans sa méthode pédagogique. Donc, Jésus est vraiment un enseignant par excellence. Mais ça, ici, les gens le voient, ils le constatent. Mais ça, c'est simplement une perspective humaine. Ils peuvent arriver à être fascinés face à Jésus et à reconnaître les qualités qu'il a. Mais ça ne va pas plus loin, vous comprenez? Ça, c'est vraiment une perspective qui est simplement humaine. Au verset 20, la foule rejette l'accusation de Jésus qu'ils sont des transgresseurs de la loi. Puis il réplique en lui disant qu'il a un démon. Vous voyez, au lieu de s'arrêter puis de considérer ce que Jésus est en train de leur dire, eux autres ne veulent rien savoir de ça, puis ils disent non, c'est pas nous autres qui a un problème. Nous, on n'est pas des transgresseurs de la loi, c'est toi qui as un démon. C'est toi qui as un problème, nous autres, on n'a pas de problème. Alors ça, c'est vraiment la perspective encore, juste une réaction humaine. Au verset 24, les gens jugent selon l'apparence de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment la perspective d'en bas, la manière terrestre, humaine, naturelle, sensorielle et limitée de percevoir les choses. Ils jugent selon l'apparence et non pas selon la justice, c'est-à-dire cette perspective d'en haut qui est différente, qui est céleste, qui est divine, qui est spirituelle, qui est surnaturelle, qui est éclairée de percevoir les choses et de comprendre les choses. Finalement, au verset 25 à 29, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que les habitants de Jérusalem, face à Jésus, sont totalement confus par rapport à l'identité réelle de Jésus, qui il est vraiment, étant donné qu'il observe des choses qui sont erronées. Alors, Jésus circule dans le temple avec une liberté déconcertante pour eux. Il proclame haut et fort qu'il est le Messie. Et là, les gens ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça. Les gens se demandent si la raison viendrait d'un changement de cœur des leaders religieux à l'égard de Jésus. Toutefois, cette suggestion est rapidement repoussée par le premier des trois critères populaires de ce que devait être le Messie, lorsqu'ils disent « Personne ne devrait savoir d'où il était ». Ça, c'est ce qu'ils citent. Alors, pour eux, il y avait une conception populaire qui était que le Messie, dans le fond, personne ne va savoir d'où il vient. Et pourtant, les Écritures montrent dans l'Ancien Testament que non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la perspective que Dieu avait donnée. Mais à cette époque-là, c'était ce qu'ils pensaient. C'est pour ça qu'ils disent cette chose-là. Alors, la deuxième, c'est celle d'en haut. Et là, on voit Jésus qui répond d'une façon qui est totalement différente. Dans les versets 6 à 10, il va dire, par exemple, « Mon temps », c'est-à-dire la raison pour laquelle je suis venu, qui est de donner sa vie pour ceux qui sont perdus, n'est pas encore venu. Tandis que la vôtre, vous autres, votre temps, il est toujours là. Pourquoi le temps des frères à Jésus est toujours là, tandis que lui, son temps est selon le calendrier de Dieu? Mais la seule réponse à donner à ça, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Autrement dit, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne vit pas pour Dieu, qui n'a pas invité Dieu à être dans sa vie, et là, ici, Jésus, à être son sauveur, à reconnaître en lui le vrai Messie, bien, n'importe quel temps est bon. N'importe quel temps pour faire n'importe quoi est toujours bon. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne se préoccupe pas s'il peut faire quelque chose, puis si c'est la volonté de Dieu ou pas. C'est ça qu'un peu Jésus est en train de dire. Autrement dit, vous autres, quand vous vivez votre vie, vous vous arrêtez jamais pour vous demander, ben est-ce que Dieu veut ça pour ma vie? Est-ce que c'est ça que Dieu veut que je fasse de mon temps, de la façon de gérer mon temps, de gérer les ressources qu'il me donne? Il dit, pour vous, vous vous posez pas ces questions-là. Mais Jésus, lui, il était toujours en harmonie avec son Père. Il était toujours préoccupé à faire la volonté de son Père. Donc, pour lui, il ne faisait rien. Et ça, c'est clair dans le chapitre 6. Jésus dit, je ne fais rien que le Père ne m'a pas montré, que le Père ne m'a pas dit de faire. Et ça, c'est vraiment une caractéristique assez exceptionnelle. Et quelqu'un qui vit selon la perspective d'en haut va exactement faire ce que Jésus est en train de faire ici. Toujours est en train de se préoccuper et est en train de sonder le cœur de Dieu, est en train de chercher la face de Dieu, de consulter Dieu pour savoir, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon temps? Un peu comme l'apôtre Paul quand il s'est converti sur le chemin de Damas. La première chose qu'il a posée à Jésus qui se révélait à lui, c'était, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aussitôt qu'il a compris qu'il avait affaire à Jésus qui était le Messie, celui qui combattait avant, celui qui croyait qu'il était un hérétique. Et là, aussitôt qu'il a compris que Jésus est véritablement le Messie, que Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur promis, et c'est lui qu'on doit obéir et croire et suivre. La première question qu'il a posée à Jésus, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et ça a été comme ça un constat dans toute sa vie par après. Et si vous regardez votre vie, à chacun d'entre vous, là, quand vous avez pris le temps de consulter l'Éternel avant de prendre des décisions, n'est-ce pas là que vous avez fait les meilleures décisions? Et je dirais que dans notre croissance, dans notre relation avec Dieu, c'est probablement un des facteurs les plus importants. C'est d'être soucieux de faire uniquement les choses que Dieu veut que je fasse. Et c'est un peu ça que Jésus va faire ressortir en disant la disposition de cœur pour quelqu'un qui veut vraiment savoir qui je suis et si ce que j'enseigne, c'est la vérité, si ce que je dis, c'est vraiment la pensée de Dieu, c'est vraiment selon le plan de Dieu, c'est vraiment ce que Dieu est et ce que Dieu veut, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu. C'est celui qui a un engagement de cœur, un engagement de foi, de dire, moi, là, la chose la plus importante dans ma vie, c'est faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus important pour moi que ça. Et quand je m'aperçois que je ne suis pas dans le plan de Dieu, j'en suis triste. Et là, je demande pardon au Seigneur. Puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai désobéi. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et puis, Seigneur, je me suis trompé. Puis là, pardonne-moi. Puis merci, Jésus, d'être de désirer me pardonner. Et là, on revient à de meilleures dispositions de cœur. Mais ce qui va nous garder, honnêtement, là, ce qui va nous garder, c'est ce que Jésus dit ici et qu'il démontre lui-même en tant que Fils de Dieu, qui disait, « Moi, je ne fais rien si mon Père ne me dit pas le « OK, vas-y, fais-le ». J'agis selon le calendrier de Dieu, le timing de Dieu. Et vous savez, le timing de Dieu, c'est le meilleur. Le calendrier de Dieu, là, il est parfait. Alors, quand il ne veut pas qu'on aille dans un projet ou qu'on fasse une chose ou qu'on agisse trop vite, c'est parce qu'il a à cœur notre bien. Et il sait, il connaît le lendemain, il connaît les obstacles qui s'en viennent devant nous. Et quand on écoute ce qu'il veut nous dire, eh bien, c'est là qu'on goûte aux bénédictions aussi qu'il veut nous apporter. Alors, au chapitre 7, verset 7, aussi Jésus dit, « Le monde me hait, car je lui rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Alors, ça, c'est la perspective d'en haut. « Il demeura aussi en Galilée, monta un peu plus tard à Jérusalem, selon le timing de son Père. » Donc, ça vient réitérer la même chose de tantôt, dans les versets 9 à 10. Et là, vers le milieu de la fête, cette fête-là durait 6 jours. Alors, c'est là qu'il s'est rendu dans le temple pour enseigner. Et là, il l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il le fasse. Et au verset 16, on voit que ses capacités d'enseignant par excellence et la qualité profonde de son message ne viennent pas de lui, mais de son Père qui le lui inspirait ses enseignements, inspirait les choses qu'il allait enseigner. Et ça faisait un contraste énorme avec les rabbins. Et c'est pour ça que là, au verset 17, le vrai test pour discerner l'origine du message de Jésus, c'est la résolution intérieure à faire la volonté de Dieu, coûte que coûte. Et si j'aime le petit commentaire de Carson que j'aimerais vous donner, il dit ceci, ce qui est exprimé ici, c'est un engagement de foi qui ouvre la porte à la personne qui cherche de comprendre la révélation de Dieu. Alors, cette disposition de cœur-là est absolument essentielle si on veut recevoir de Dieu sa parole et être illuminé par son Saint-Esprit. Et ça fait faire toute la différence dans notre vie. Ensuite, Jésus dit le vrai test aussi pour discerner la légitimité du ministère de quelqu'un et de ses motifs, qui prétend parler ou agir au nom de Dieu. C'est facile, vous savez, c'est quoi? Alors, quelqu'un qui dit, moi, Dieu m'a parlé, Dieu agit à travers moi, mon ministère, ou ce que je suis en train de vous dire, c'est un enseignement de Dieu. Bien, Jésus, il dit, c'est simple. C'est regarder son portfolio personnel. Est-ce qu'il est en train de se promouvoir lui-même? Est-ce qu'il est en train de vouloir chercher sa propre gloire? Ou est-ce qu'il est en train de chercher la gloire d'un autre, c'est-à-dire la gloire de mon Père, la gloire de Dieu? Alors, quelqu'un qui est là pour lui-même, il va faire la promotion, il va chercher ses propres intérêts personnels. Vous savez, dans le temps de l'Église primitive, donc dans le premier siècle de l'ère chrétienne, deuxième siècle, ils avaient développé un critère parce qu'il y avait beaucoup de prédicateurs itinérants. Donc, ils se promenaient de ville en ville, puis là, on recevait un frère d'une telle place, puis là, il restait pendant un certain nombre de temps. Et là, des fois, il y avait des lettres de recommandation qui étaient nécessaires pour dire, OK, oui, lui était recommandé par tel frère qui, lui, est connu dans le milieu chrétien. Donc, il enseigne la vérité, il enseigne selon le cœur de Dieu, il enseigne selon le conseil de Dieu. Mais il y avait un des trucs qui était donné, qui circulait entre les leaders d'église en disant, écoute, si quelqu'un veut venir prêcher dans ton église, d'une manière ou d'une autre, tu es en contact avec, puis la première chose qu'il te demande, c'est combien ça donne? Il dit, c'est un charlatan. Ne l'invite pas. Alors déjà là, ça montrait un peu ce que Jésus est en train de dire. Si quelqu'un cherche ses propres intérêts, s'il est là pour lui-même, pour ses propres intérêts, c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui est de Dieu. Alors Jésus dit, moi je suis ici non pas pour moi-même, pour faire ma promotion de moi-même, mais je suis ici pour faire la promotion de mon Père. Et il faisait toujours clair que tout ce qu'il faisait lui, c'était grâce à son Père et à cette relation-là qu'il avait avec lui. Et là, un autre élément important, dans les versets 33 à 34, ça dit que l'heure de Jésus s'en vient. Et quand son heure sera venue, selon le plan et le timing parfait de son Père, il va donner sa vie sur la croix pour le pardon des péchés. Puis là, une fois que la crucifixion aura été accomplie de Jésus et qu'il aura ressuscité d'entre les morts, viendra alors le jour où tous le chercheront, mais en vain, puisqu'il aura retourné vers son père d'où il est venu. » Et là, ils n'ont vraiment pas compris ça. Là, c'était comme du jargon pour eux autres. Mais pourtant, Jésus, il savait très bien ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette perspective d'en haut. Et vous savez, on peut tous avoir cette perspective d'en haut. Il y a la parole de Dieu qui est là pour nous enseigner la perspective de Dieu, mais il y a aussi la prière et ce désir dans notre cœur de vouloir faire la volonté de Dieu. Si c'est ce désir-là qui nous anime, le Seigneur dit ça va nous protéger et ça va nous garder. Et là, la dernière perspective, et je termine avec ça, c'est la manière maléfique, mensongère, infecte et pernicieuse de percevoir Jésus. On la voit au verset 1. Qu'est-ce qui se passe au verset 1? Les leaders cherchaient à faire mourir Jésus avant son temps. Voyez? Donc, ils voulaient aller à l'encontre du plan de Dieu. Ensuite, au verset 11, les autorités juives de Jérusalem le cherchaient activement pendant la fête en disant « Où est-il celui-là? » Alors, on voit qu'ils étaient frustrés et il y avait du mépris à l'égard de Jésus. Alors, toute personne qui manifeste un tel mépris à l'égard de Jésus, d'où ça vient ça? C'est clair que ça vient de l'ennemi. Aussi, au verset 30, ça dit que les autorités, encore là, cherchaient à se saisir de lui. Alors, ils voulaient l'éliminer. Au verset 32, les principaux sacrificateurs, des sadducéens et des pharisiens, envoyaient des huissiers pour le saisir. Encore là, c'est la même pensée qui est derrière ça. Et dans les versets 35-36, les Juifs leaders ne comprirent pas les paroles de Jésus et ils se moquèrent de lui en se demandant « Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? » Alors, toutes ces choses-là montrent que ce qui était derrière ça, c'était des pensées ou la perspective diabolique. Et si vous vous souvenez, juste par exemple, quand Simon-Pierre a dit à Jésus à un moment donné « Tu n'iras pas à la croix. » Hein? Pourtant, il avait dit aussi, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, pas longtemps avant. » Et là, il dit, « Hey, là, tu as la perspective d'en haut, Pierre, tu es heureux. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de ton cœur naturel. Il fallait absolument que tu aies de l'aide pour ça. » Après ça, quand il dit, « Jésus, tu n'iras pas à la croix. Dieu ne plaît, tu n'iras pas à la croix. » Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? « Satan. » Il est allé jusque-là. Autrement dit, ce que tu es en train de me dire, Pierre, là, cette fois-ci, là, ça vient de la perspective d'en dessous, diabolesse. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de prendre le temps de regarder sur quelle perspective est-ce que je suis en train de fonctionner. Est-ce que c'est ma perspective simplement humaine, d'un raisonnement humain, qui est donc la perspective terrestre d'en bas, qui est basé sur mes sens, sur ce que je vois, sur ce que je comprends, sur ce que je peux percevoir? Ou est-ce que, pire encore, ma perspective, elle est influencée par l'ennemi? Ou là, je suis en train de remettre en question Dieu, je suis en train de remettre en question la parole de Dieu, je suis en train de remettre en question le timing de Dieu, ou la capacité de Dieu de faire une œuvre dans ma vie ou de venir m'aider dans les problèmes dans lesquels je suis. Puis que là, je ne peux pas faire confiance à Dieu, que là, il faut que je me débrouille par moi-même, que là, Dieu, pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas. Voyez? Puis là, je remets en question la parole de Dieu, la clarté de la parole de Dieu ou la véracité de la parole de Dieu. C'est déjà arrivé, moi, que quelqu'un m'a dit, écoute, même si c'est écrit dans la parole de Dieu, moi, je ne le ferai pas. Oui, mais j'ai dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Ah, écoute, dis ce que tu voudras. Moi, là, je vais faire ce que je veux faire par rapport à ça. Puis, les conséquences, je vais les assumer. Wow! C'était-tu sérieux? Là, j'ai dit, écoute, moi, là, si tu me dis ça, puis là, je suis troublé en dedans de moi. Parce que là, tu me le dis d'une façon, t'es éclairé, t'es en pleine connaissance de cause, tu comprends exactement les choix que tu es en train de faire, tu comprends exactement ce que la parole de Dieu dit, tu me dis que tu le vois, tout ça, mais tu me dis, en dépit de tout ça, non. Puis les conséquences, je les assume. Mais elle dit, moi, il y a juste deux possibilités. Elle dit, la première, c'est que tu ne sais pas de ce que tu es en train de dire. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Là, tu es influencé d'une certaine manière, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que tu dises quelque chose que tu es en train de dire. Si tu es désireux de vivre ta vie pour Dieu, tu te dis un chrétien, tu te dis un disciple de Jésus, puis là, tu vas entreprendre cette affaire-là en sachant très bien que c'est contre sa volonté, puis que tu es prêt à assumer les conséquences. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a des fils qui ne sont pas connectés. Ou l'autre possibilité, c'est que tu ne connais pas le Seigneur. Parce que là, c'est trop gros, là. C'est trop gros. Puis là, ça a resté comme ça. Puis il est parti avec ça. Puis, malheureusement, il a fait des grosses gaffes. Et il n'est même plus, à ma connaissance en tout cas, il n'est même plus dans la foi présentement. Vous savez, ça, c'est vraiment clé. Jésus a vécu sur la perspective d'en haut. Et nous, si on vit selon la perspective d'en haut, si on se colle à Jésus et à la parole de Dieu, ça va faire toute la différence dans notre vie. Et peut-être vous êtes dans des situations présentement où vous vous posez des questions, vous êtes en réflexion. Je vous invite à prendre le temps. Faites-vous trois listes, si vous voulez, trois feuilles, perspective d'en bas, perspective d'en haut, perspective d'en dessous, puis là, face à la situation où vous vivez, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Ça vient-tu de Dieu, ça? Ça vient-tu de moi? Ou même ça vient-tu de l'ennemi qui essaie de m'éloigner et m'emmener à faire des erreurs dans les décisions que je vais prendre? Prions ensemble. Je vais vous inviter à prier avec moi ce matin.